VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal en ce mercredi 29 août 2018. Les dernières étapes du processus électoral en République démocratique du Congo ravivent les craintes. L'ONG Human Rights Watch accuse les autorités d'avoir fermement réprimé l'opposition politique. Les États-Unis, eux, se disent profondément inquiets de la décision prise par la commission électorale de disqualifier certains candidats d'opposition à la présidentielle pour ce qui apparaît être des raisons politiques. D'ailleurs, les 6 candidats recalés ont saisi hier la Cour constitutionnelle. Irénée Herman Umbo.
Marie-Josée Ifokoumpouta a déposé son recours contre son défaut de nationalité congolaise d'origine invoqué par la CENI. L'ex-vice-gouverneur a répété qu'elle avait retrouvé sa nationalité congolaise d'origine en 2011 après avoir eu la nationalité canadienne. Pour sa part, Jean-Claude Mokangolo Mpati affirme avoir été écarté car la CENI n'arrivait pas à récupérer sa caution de 100 000 dollars auprès de la Direction générale des recettes, brandissant le récépissé de son virement bancaire. Quant à Jean-Pierre Bemba, écarté en raison de sa condamnation pour subornation de témoins devant la Cour pénale internationale, ses proches estiment que le code pénal congolais établit une distinction entre la corruption motif d'invalidation et la subornation. La Cour constitutionnelle doit désormais délibérer et renvoyer ses décisions à la CENI, qui annoncera la liste définitive des candidats le 19 septembre, à 3 mois des élections prévues le 23 décembre.
Oui, les élections législatives et provinciales sont également prévues le 23 décembre. À ce propos, justement, la candidature d'un milicien aux élections provinciales du Sud Kivu provoque la colère. Frédéric Batoumike a été condamné à perpétuité pour des viols sur des fillettes, mais sa candidature a été jugée recevable par la commission électorale, qui assure toutefois que des corrections sont en cours. Au Mali, 3 mois après la présidentielle, les électeurs retourneront aux urnes les 28 octobre et 18 novembre pour des législatives. Kassim Traoré.
La bataille pour le renouvellement des 147 sièges de l'Assemblée nationale du Mali est lancée. Le collège électoral est convoqué pour le dimanche 28 octobre 2018 sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mardi 28 août 2018, présidé par le Premier ministre Soumerou Mbouy-Maïga. Pour les législatives de 2018, la campagne électorale à l'occasion du premier tour sera ouverte le samedi 6 octobre à 0h. Elle sera close le vendredi 26 octobre à minuit. Un second tour aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'aurait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Pour ce qui est de la campagne à l'occasion du deuxième tour, elle sera ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et close le 16 novembre 2018 à minuit.
Revenons ce matin sur cette nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. Au moins 7 membres des forces de l'ordre du pays ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal dans la nuit de lundi à mardi, 15 jours après la mort de 6 personnes dans des circonstances similaires dans la même région de l'est du pays. Jacob Yarabatiola est expert en terrorisme à Ouagadougou.
L'intensité, la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de court. Parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque. Mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas. Peut-être voir les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. Et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
Des propos recueillis par Bagassi Koura. En tournée en Afrique, la première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine de 2 ambassades au Tchad et au Niger pour, dit-elle, combattre l'instabilité dans l'une des régions les plus fragiles du continent. La chef du gouvernement, qui fait étape au Nigeria aujourd'hui après s'être rendue en Afrique du Sud hier, a également annoncé le renforcement des effectifs dans l'ambassade britannique au Mali. Au Niger, au moins 36 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en juin. C'est le nord désertique qui est particulièrement frappé, Claire Morin-Gibourg.
Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ce sont plus de 130 000 personnes qui sont sinistrées à la date du 27 août. Les eaux ont également détruit plus de 7 000 habitations, des milliers d'hectares de cultures et plus de 31 000 têtes de bétail ont été décimées, toujours selon les chiffres de l'OCHA. Agadez, la grande ville du Nord, affiche le plus lourd bilan avec près de 61 000 sinistrés, soit près de la moitié des habitants. Maradi, Zinder et Diffa ont également été touchés, mais dans une moindre mesure. En revanche, la capitale Niamey a été épargnée alors que les intempéries y avaient tué une vingtaine de personnes en 2017. La construction de digues aurait mis des milliers de riverains à l'abri des crues meurtrières du fleuve Niger.
Également dans l'actualité, 5 soldats kényans ont été tués par l'explosion d'une mine artisanale ce mercredi matin au passage de leur convoi dans le comté de Lamu, proche de la frontière somalienne. Les islamistes somaliens Shebab ont par le passé revendiqué la plupart des attaques de ce type qui ont tué des dizaines de policiers et soldats kényans. Toujours au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée hier. Philomena Mwilu est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta l'année dernière. Une décision historique qui a provoqué la tenue d'une deuxième présidentielle en octobre 2017. Jean-Roger Bion.
Le directeur des poursuites, Nourdine Hadji, a assuré mardi détenir la preuve que Mme Mwilu avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. Elle est également accusée de ne pas avoir payé certains impôts. À la question de savoir si les poursuites contre Mme Mwilu étaient liées à la menace proférée en 2017 par M. Kenyatta de s'occuper de la magistrature, M. Hadji a assuré et travaillé en toute indépendance. « Nous sommes une institution indépendante et nous ne sommes dirigés par personne », a-t-il affirmé. Philomena Mwilu a toutefois été libérée dans la soirée sous caution de 42 000 euros. Son avocat principal, le sénateur d'opposition James Orengo, qui est également celui qui avait plaidé en août 2017 pour l'invalidation de la réélection de M. Kenyatta, a indiqué que la vice-présidente de la Cour suprême entendait contester la constitutionnalité des poursuites engagées contre elle. Le président Kenyatta a récemment lancé une guerre contre la corruption dans son pays à l'économie dynamique, mais minée par une culture de pot de vin et de malversation.
Aux Comores, le président Azali Assoumani a nommé un nouveau gouvernement un mois après la victoire du oui à un référendum constitutionnel très contesté qui doit lui permettre de prolonger son règne à la tête de l'archipel. Sa nouvelle équipe compte 12 ministres et 3 secrétaires d'État. Seul départ marquant, celui du vice-président Jafar Saïd Ahmed, dont le poste a été supprimé par la réforme constitutionnelle. Il s'était publiquement opposé au référendum. Dans le cahier international, en Irak, au moins 11 personnes ont été tués, dont 5 membres des forces de sécurité, dans un attentat suicide à la voiture piégée ce mercredi contre un poste de contrôle à l'entrée de la ville d'Al-Qaïm, près de Bagdad. La déflagration a également blessé 5 autres membres des services de sécurité et 11 civils. Les forces gouvernementales ont repris Al-Qaïm fin l'année dernière, une des dernières villes encore aux mains des djihadistes du groupe État islamique. La Birmanie rejette le rapport de l'ONU accusant son armée de génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas lors d'une réunion du Conseil de sécurité hier. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont soutenu l'idée de poursuites judiciaires internationales contre les responsables militaires birmans. Le gouvernement birman met en avant la création d'une commission d'enquête indépendante pour répondre aux fausses allégations des agences de l'ONU, dit-il. La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, devenue de facto chef du gouvernement, s'est abstenu jusqu'ici de tout commentaire. Au Brésil, le président Michel Temer a ordonné l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à sa frontière avec le Venezuela, d'où affluent depuis des mois des réfugiés. Il déplore une crise qui affecte toute l'Amérique latine et appelle la communauté internationale à adopter des mesures diplomatiques contre l'exode de Vénézuéliens fuyant la crise politique et économique avec de nombreuses pénuries de produits de première nécessité très isolés sur la scène internationale. Le gouvernement vénézuélien assure que les migrants vont revenir grâce aux réformes du président Nicolas Maduro. Et puis, les négociateurs canadiens et américains doivent se pencher ce matin sur les détails des enjeux qui bloquent la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Jacques Aristide à Washington. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dès demain matin. Plus tard, vous allez retrouver Henri Francisque.